de légende. C'est la nuit sur Radio Classique.
Thank you.
Toute la programmation de Radio Classique de nuit sur radioclassique.fr.
Thank you.
Radio Classique de nuit, tous les jours à minuit, sur Radio Classique.
Radio Classique, rediffusion de la matinale d'hier. L'invité de Comment j'ai réussi, Antoine Bouchet. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Huggy. Vous proposez des produits du quotidien en grand format, par exemple du liquide vaisselle en bidon de 5 litres, des jus de fruits en pack de 3 litres, du gel lavant pour bébé en bidon de 5 litres également. Pourquoi ce choix? Pourquoi est-ce que vous avez choisi de sortir des formats habituels qu'on trouve dans les magasins?
Parce qu'en fait, quand on regarde aujourd'hui l'offre en produits de grande consommation, on voit qu'elle est essentiellement regroupée autour de produits de petit format. Voilà, c'est le grand business model de la grande distribution. Hein. C'est beaucoup de produits par mètre linéaire. L'objectif, c'est d'acheter toujours plus. Et nous, on s'est dit que finalement, il fallait peut-être revenir un peu aux fondamentaux, proposer des formats professionnels à des prix plus proches des professionnels pour les particuliers. Et en fait, aujourd'hui, quand on parle de problèmes de pouvoir d'achat, d'écologie, etc. Finalement, c'est une manière assez simple d'y répondre. Voilà, moins de packaging, plus de produits pour un même prix. Voilà, c'est notre manière à nous d'aider les Français au quotidien.
Est-ce que c'est réellement moins cher en termes de prix au litre ou de prix au kilo?
Ah oui, complètement. Oui, oui. Sur des gels douches, on peut avoir un écart de prix jusqu'à 50% versus des marques assez connues en grand format. Voilà.
Est-ce que les marques sont facilement d'accord pour proposer des produits au format XXL? C'est forcément moins intéressant pour elles en termes de tarifs?
Alors, pas forcément. Le coût de produire en grand format pour des industriels, finalement, revient un peu moins cher. Et nous, aujourd'hui, on s'adresse essentiellement à des marques qui ont vocation à faire des produits plutôt bio, éco-cert, etc. Enfin, avec une démarche qualité. Du coup, des marques un peu plus engagées qui ont l'habitude de travailler des formats un peu plus vrac, déjà.
Aujourd'hui, les consommateurs n'ont pas forcément la place de stocker chez eux de grandes quantités de produits, en tout cas dans les grandes villes. Le prix de l'immobilier ne permet pas d'avoir beaucoup de place. Du coup, à qui s'adresse votre offre?
Eh ben, notre offre, en fait, elle s'adresse à toute la France qui a pas forcément d'offre de livraison de courses à domicile.
Donc plutôt en zone rurale.
Exactement, périurbaine, rurale. Voilà, des gens qui, pour faire leurs courses, vont soit au supermarché, soit au drive, mais qui revient finalement à se déplacer.
Donc pour éviter les déplacements.
Exactement.
C'était la première idée.
Voilà.
Est-ce que le consommateur a la même perception du produit en termes de valeur et de qualité lorsqu'il s'agit d'un grand format? Les codes du marketing nous ont appris qu'un produit en petite quantité a forcément un aspect plus luxueux, plus haut de gamme.
Mais complètement, c'est là tout le travail en fait de notre marketing. Voilà, c'est d'expliquer aux gens que finalement c'est le même produit, juste en un peu plus grand. Alors certaines personnes aiment beaucoup parce qu'ils ont ce sentiment de ne pas manquer, de faire des réserves. Voilà, on fait le plein. Vous savez, quand on dit on fait le plein, on fait vraiment le plein là pour le coup.
À condition de ne pas avoir un bidon de 5 litres posé sur le bord de sa baignoire ou de son bac à
douche. Non. Du coup, l'idée c'est qu'après on a toute une petite gamme de dispensaires. Voilà, c'est consommer un petit peu différemment.
Et il y a évidemment une vraie dimension écologique, hein, moins d'emballage, moins de livraison, vous l'avez dit, ça c'est un argument de vente que vous mettez en avant?
On le met en avant, après je pense que le choix final se fait essentiellement sur la qualité. On le voit aujourd'hui, les gens sont très sensibles à la composition des produits, il y a de plus en plus de choses qui sortent aujourd'hui sur les résidus qu'on peut trouver dans certains types de produits alimentaires, d'hygiène, de grande conso. Et donc finalement, la priorité numéro un aujourd'hui des consommateurs, c'est bien consommer.
Comment fonctionne votre réseau de distribution? On commande en ligne, on est livré à domicile?
Exactement, donc on va sur hugi.co, c'est haut.
On commande. Hugi, ça s'écrit H-U-G-Y.
H-U-G-Y.co. Voilà, on commande, on se fait livrer en 2-3 jours ouvrés partout en France.
Pour l'instant, vous avez un nombre de références assez limité. Quels sont vos projets de développement?
Là, on va avoir à peu près 150 références. L'idée, c'est de suivre un petit peu les besoins de notre clientèle. Donc, on demande à chaque fois quel produit vous aimeriez retrouver en grand format. Parce que forcément, tous les produits ne sont pas compatibles avec le grand format. Et notre ambition à terme, c'est pas d'avoir 100 000 références. Hein, c'est de limiter justement le catalogue aux essentiels, au fond de placard, en fait. Et de sélectionner à chaque fois une ou deux marques top qualité, selon nous hein, et selon les consommateurs.
Mais ce ne sont pas des marques qu'on connaît déjà?
Certaines, comme l'Arbre Vert, par exemple, oui. Marque assez connue.
Mais il y a aussi des marques qui sont relativement peu connues.
Exactement. C'est aussi notre rôle d'aller chercher des plus petits producteurs, qui ont l'habitude normalement de travailler des circuits locaux bio. Et du coup, nous, on leur permet d'accéder à un marché national.
Mais est-ce que vous aviez essayé de travailler avec des grandes marques, de leur proposer ce marché du grand format?
Alors, on les connaît, on les a pas vraiment approchés pour l'instant. Alors, il y a une logique de volumétrie. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas encore assez gros pour pouvoir proposer des grandes marques comme ça, qui répondent à nos critères de qualité, bien entendu. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, finalement, travaillons avec des plus petits qui sont contents de travailler avec nous. Et puis, bon, on verra plus tard.
Quel est le profil de vos clients, ceux qui achètent?
Beaucoup de familles, des
nombreuses.
Retraités aussi. Ouais, familles. Alors nombreuses. On a des familles de 3, 4, 5, enfin assez large. Mais finalement beaucoup de gens en fait en maison essentiellement. Donc on a vraiment beaucoup de gens ruraux. On a des agriculteurs. On a vraiment toutes les catégories socioprofessionnelles qui commandent. Et en fait on se rend compte que cette logique qualité, grand format, un peu fondamental. Enfin voilà, on revient aux fondamentaux. Bah plaît beaucoup.
C'est-à-dire acheter du produit au lieu d'acheter du plastique et de l'emballage. Est-ce qu'il y a un marqueur générationnel? Est-ce que les jeunes sont plus attirés par ce concept?
Je dirais que aujourd'hui, notre clientèle, elle est plutôt entre 40 et 60 ans.
Ah oui.
Ouais.
Donc, très jeune.
Enfin, ouais. le gros. Après, on a essentiellement des gens entre 40 et 60 ans, et avec aussi des plus jeunes couples. Après, je pense que consommer grand format demande de stocker, demande d'acheter un petit peu plus au démarrage. Donc forcément, on s'adresse à des gens voilà qui sont déjà peut-être plus établis,
voilà, qui sont pas très justes en termes de pouvoir d'achat à la fin du mois, quoi.
Oui, alors pour ça, on propose des paiements facilités. Donc là, on travaille sur un étalage en fait sans frais du paiement d'achat. Donc ça permet de réduire en fait la facture à l'achat, et finalement lissé sur la durée de consommation, on se rend compte qu'on dépense moins qu'en allant au supermarché.
Merci beaucoup Antoine Bouchet d'être venu ce matin, cofondateur de Huggy. Vous proposez, je le rappelle, des produits du quotidien en grand format. Approche intéressante, hein, liquide vaisselle, bidon de 5 litres ou du jus de fruits en pack de 3 litres.
La matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi.
Un monde de progrès avec Nicolas Bouzou, bonjour.
Bonjour Stéphane.
Ce matin, vous nous dites que la grippe qui a frappé beaucoup d'entre nous ces dernières semaines pourrait bientôt n'être plus qu'un mauvais souvenir.
Absolument, hein. C'est un événement qui a été peu commenté, mais qui est absolument majeur. Le laboratoire pharmaceutique américain Merck vient de racheter pour 9 milliards de dollars une biotech californienne qui s'appelle Cidara, qui a réussi un essai clinique de phase 2 sur un vaccin appelé CD388. Je dis un vaccin, ça n'est pas un vaccin à proprement parler, mais plutôt un antiviral qui protège contre toutes les grippes connues. Il peut protéger aussi éventuellement contre les grippes qui n'existent pas encore. Dans un essai qui porte sur plusieurs milliers de volontaires, une seule injection a montré une efficacité de l'ordre de 75%. C'est très au-dessus des vaccins saisonniers actuels, hein, qui ont une efficacité qui plafonne entre 30 et 60%. Ce nouveau vaccin, cet antiviral plus exactement, il est aujourd'hui en phase 3, ce qui signifie que l'on pourrait espérer une commercialisation en 2028. Hein. Vous voyez, ça peut aller vite.
Qu'est-ce qui rend ce traitement vraiment différent des vaccins classiques?
Depuis des décennies, on court après la grippe. En réalité, on fabrique chaque année un nouveau vaccin en essayant de deviner quelle est la souche qui va circuler. Alors ce nouveau vaccin, CD388, il change totalement de logique. Il cible un mécanisme biologique qui est commun à tous les virus grippaux, un mécanisme qui est indispensable à leur reproduction. Ce qui signifie que même quand le virus mute, le médicament continue de fonctionner. On ne parle plus d'une protection saisonnière incertaine, mais d'une protection structurelle durable. On n'aura donc plus besoin de faire un vaccin avec une efficacité limitée. Là, on sera vraiment très correctement protégé, très bien protégé pendant tout l'hiver. En outre, son efficacité est indépendante du système immunitaire. Ça signifie que des personnes fragiles seraient parfaitement protégées. Je vous rappelle, hein, Stéphane, que la grippe cause environ 9000 décès par an en France, génère 20000 hospitalisations et des effets secondaires pour les personnes fragiles, notamment des troubles cardiovasculaires.
Avec des conséquences évidemment sanitaires et économiques considérables.
Oui, considérable. Hein. La grippe provoque chaque année des centaines de milliers de morts dans le monde, des millions d'hospitalisations, des milliards de dollars ou d'euros de pertes économiques pour les systèmes de santé, mais aussi pour les entreprises. Un vaccin universel changerait la donne. Cela générerait une baisse massive des hospitalisations, une protection des populations âgées et fragiles, et donc une réduction des coûts de santé. Ça tombe bien, c'est très exactement ce qu'on cherche.
Radio Classique, rediffusion de la matinale d'hier.
Bonjour Étienne Lefebvre.
Bonjour David.
L'assurance maladie a publié hier son panorama annuel des médicaments avec quelques surprises à la clé.
Et oui, les Français restent parmi les plus gros consommateurs de médicaments, ça on le savait. Les traitements innovants sont chers, ça on le savait aussi. Mais contrairement au discours ambiant, l'assurance maladie prend de mieux en charge les médicaments. Le taux de remboursement moyen a ainsi progressé de 7 points en 10 ans pour atteindre 87% pour les médicaments délivrés chez le médecin. On approche même les 90%
avec les prescriptions à l'hôpital. Un résultat qui peut surprendre alors que la quête d'économie a conduit à des déremboursements et à l'instauration de franchises. Mais l'explication est simple. Les nouveaux traitements les plus chers sont aussi les mieux remboursés. Ils sont couverts à 100% pour les malades chroniques, à l'instar des anticancéreux, les médicaments qui pèsent le plus sur les comptes. Et cela s'accentue avec l'envolée des prix. Plus de 20 médicaments affichés à un coût moyen par patient supérieur à 100 000 euros l'an dernier, contre un seul traitement 10 ans plus tôt.
Quelle conclusion tirer de tous ces chiffres ?
Eh bien d'abord que le gouvernement n'aurait pas dû renoncer au doublement des franchises sur les boîtes de médicaments. Un abandon coûteux sous la pression de la gauche pour faire passer le budget de la Sécu, les opposants à la mesure dénonçant le désengagement de l'assurance maladie. On voit que cet argument est erroné et que si l'on veut bien prendre en charge les traitements innovants, et ça c'est indispensable, eh bien il faut faire des sacrifices ailleurs et inciter à réduire notre consommation médicale. L'autre leçon, c'est que les Européens devraient s'unir davantage face aux grands laboratoires quand il s'agit de négocier des tarifs parfois hors de contrôle de ces nouveaux traitements, d'autant que la pression mise par Donald Trump sur les prix conduit les industriels à durcir leur position. Un nouveau défi pour le financement de la sécurité sociale.
L'éditorial de l'économie par Étienne Lefebvre avec les Échos qui titre ce matin « Automobile, l'accélération électrique ». Quant à l'opinion, budget, pourquoi le cornu reste flou.
Radio Classique, rediffusion de la matinale d'hier.
Bonjour Frédéric Bizard.
Bonjour.
Bienvenue sur Radio Classique. La grève des médecins libéraux se termine aujourd'hui. Mouvement afin de protester contre certaines mesures du budget de la sécurité sociale, notamment sur les dépassements d'honoraires. Est-ce que c'est vraiment en s'attaquant aux revenus des médecins qu'on va résorber de manière significative le déficit de l'assurance maladie ?
Je crois qu'on prend le problème du mauvais bout. Et en fait, ce qui vient d'être dit sur les médicaments, la question de la médecine libérale, et on pourrait en prendre d'autres, c'est le nom. De quoi ? C'est le nom d'un système de financement de la santé qui est à bout de souffle, c'est-à-dire d'un système qui se veut soi-disant très généreux et qui veut prendre en charge toute la misère du monde, mais sans être efficace aujourd'hui, parce que vous avez une explosion de la demande de soins. Ça, c'est la source de tout ça, c'est la même, c'est-à-dire que vous avez une prise en charge de l'assurance maladie qui est passée de 75% de l'ensemble des dépenses de santé à 80%. C'est pas que le cas des médicaments où c'est passé de 80. C'est lent. Pourquoi ? Parce que vous avez une très forte hausse de la prévalence des patients ALD qui sont aujourd'hui 14 millions. Ils étaient 10 millions en 2010. Et il y en a 400 000 de plus par an. Donc, tant qu'on ne s'attaquera pas à la source du mal, c'est-à-dire à la dégradation de l'état de santé, c'est-à-dire à un vieillissement en mauvaise santé, ce que l'assurance maladie n'a pas l'air de vouloir voir, mais c'est pas simplement un problème d'assurance maladie, c'est un problème politique derrière ça. Donc, le résultat, ça, c'est qu'il faut faire des choix. Quel est le rôle, quelle est la mission de l'assurance maladie ? Que doit rembourser l'assurance maladie ? J'ai un petit désaccord avec Étienne Lefebvre d'avant. C'est que l'idée, c'est pas de se dire, il faut que l'assurance maladie soit un peu partout et qu'on mette des franchises partout pour qu'elle rembourse tout, mais mal tout. C'est de faire des choix de sélection de ce qui doit être remboursé. Est-ce que la médecine libérale doit être remboursée par l'assurance maladie ou par les mutuelles ? C'est un choix. Est-ce qu'on veut que ce système soit solidaire ou pas ? C'est un choix politique.
17,2 milliards d'euros pour le déficit de l'assurance maladie en 2025. Le chiffre est absolument colossal. Vous dites qu'il faut sélectionner ce qui doit ou pas être remboursé, mais est-ce que les Français sont prêts à l'accepter ?
Non, mais il faut ce qu'il faut pas faire, c'est ce que l'on fait depuis 20 ans, c'est-à-dire demander à certaines corporations de faire des efforts. Un jour les taxis, les ambulanciers, un autre jour les médecins spécialistes. Il faut avoir une vision politique globale et expliquer ce que je viens de vous expliquer, mais qui doit basculer dans un système tout autant solidaire et efficace. Mais de savoir ce que l'on doit. C'est l'innovation qui prime. On vient d'avoir un Français prix Nobel sur ça qui explique que si vous ne privilégiez pas l'innovation, la diffusion massive des innovations, vous avez des systèmes qui se dégradent. C'est exactement ce qui se passe pour le système de santé. Mais attention, le système dont je parle là de demain, de dissocier le rôle de l'assurance maladie du rôle des assureurs privés et d'avoir une responsabilisation par une participation des Français plus importante. Je rappelle que nous, on a le
reste à charge le plus faible d'Europe.
Mais on se gare. gargarise de ça, qui est un indicateur absolument stupide. L'Allemagne a un reste à charge qui est le double et l'Allemagne est bien plus solidaire et a des comptes à l'équilibre. Est-ce que vous savez quel est le médicament le en volume le plus remboursé? C'est le Doliprane qui vaut 2,18 € et qui est remboursé 65%, bah, tout dépend des patients, mais on va dire chez beaucoup de patients, 65% par l'assurance maladie et 35% par les mutuelles. Est-ce bien sérieux? Ce système, ce futur système, il doit être solidaire parce que 20% de la population ne doivent pas avoir de reste à charge. Ceux-là, il faut les protéger. Ceux qui n'ont pas les moyens de payer sur... Mais tous les autres, il faut qu'ils soient protégés pour lorsque les dépenses sont très élevées, comme les médicaments coûteux, comme les dépenses à l'hôpital, comme les dépenses des spécialistes libéraux du bloc opératoire. Mais le reste, il doit y avoir une participation financière. Sinon, le système implose, les 17 milliards dont vous parlez, ça sera demain 20 milliards et on voit bien que la loi de financement de sécurité sociale à moyen terme, à 2029, n'est pas capable de rétablir la trajectoire.
Vous dites Frédéric Bizard, il faut favoriser l'innovation. Aujourd'hui, on a le sentiment que la France n'a plus accès aux médicaments les plus innovants. Je vous donne un chiffre, 40% des médicaments innovants lancés sur le marché européen ne sont pas aujourd'hui disponibles sur le marché français. Mais ça, c'est la conséquence de notre déficit.
Oui, là-dessus, comme souvent, les extrêmes ont raison sur le constat, mais pas sur les solutions. Trump a raison, nous sommes les passagers clandestins du financement de l'innovation en Europe. Et l'Europe est le passager clandestin des États-Unis. Les États-Unis payent pour nous très cher l'innovation et nous en bénéficions. Mais nous sommes le passager clandestin de l'Europe, puisque nous avons des médicaments qui sont le moins coûteux. Et c'est là où il y a eu un contresens de l'analyse de ça de la part de l'assurance maladie et qui entraîne un contresens assez général à l'opinion publique. C'est dire, ah mais nous avons des médicaments trop chers. Mais nous avons les médicaments les moins chers d'Europe dans les pays développés. Mais si nous ne voulons pas des innovations et si nous voulons garder les produits matures, mais gardons les produits matures et vous allez voir que le prix va s'effondrer moyen des médicaments. Vous voyez, c'est une question de choix. Donc, il faut absolument restructurer l'ensemble de ce système de financement de l'assurance maladie en redéfinissant le rôle de l'assurance maladie, en redéfinissant ce que doit financer l'assurance maladie. Est-ce que l'assurance maladie doit financer 94% des transports sanitaires, comme aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que c'est le cas? C'est-à-dire doit rembourser dans 90% des cas des transports sanitaires qui n'ont absolument aucune raison d'être collectivisés, d'être socialisés. Non, mais c'est pas la peine de jeter la pierre aux ambulanciers et aux taxis qui ne font qu'appliquer la règle.
Frédéric Bizard, il nous reste peu de temps. Est-ce que la France doit améliorer l'efficacité de son système de santé? Nous consacrons 11,5% du PIB à notre système de santé, 2 points de plus que la moyenne européenne. Est-ce que le système de soins français coûte plus cher à traitement équivalent que les autres systèmes en Europe?
Oui, il coûte de plus en plus cher tout en étant de plus en plus inefficace. C'est ça le problème. Donc j'ai parlé du problème de gestion du risque où il faut aller en amont, il faut avoir une vraie politique de santé publique qui réduise. Vous voyez, c'est comme tout à l'heure, j'entendais les questions sur l'obésité. Nous n'avons pas de politique de santé efficace quand vous n'allez pas sur l'origine du flux. Comment est-ce que je peux maintenir en bonne santé la population du plus? Donc ça, c'est une politique de santé publique qui n'existe pas en France. La deuxième chose, c'est rendre le soin plus efficace. 2/3 des dépenses d'assurance maladie, c'est la gestion des patients avec des affections de longue durée, ce qu'on a parlé. Il n'y a aucune organisation des parcours. On a encore un vieux système qui gère des soins ponctuels, qui ne gère pas une vision de parcours. Donc il faut, par exemple, mettre un contrat thérapeutique avec une vision de parcours global, d'évaluation annuelle des parcours et d'optimisation de ce parcours-là. Il faut un coordinateur, il faut utiliser ces nouvelles technologies, l'IA, pour assurer qu'on a bien une bonne gestion des ressources, etc. Vous voyez, donc c'est le conjoncturel qui se dégrade rejoint le structurel qui est absolument indispensable. Mais soyons lucides, ça sera pour 2027. En attendant, il faut essayer d'avoir une vision et de gérer justement avec une réflexion médico-économique indispensable et pas une gestion comptable court-termiste.
Merci beaucoup. Merci Frédéric Bizard. Remettre le système à plat, votre solution. Frédéric Bizard, économiste spécialisé dans la santé et la protection sociale.
Radio Classique, rediffusion de la matinale d'hier.
Bonjour Christian.
Bonjour David.
Avant de parler de l'Iran, je renvoie nos auditeurs à votre chronique d'hier sur le Groenland. Tout y était, l'envoi d'un contingent, l'ouverture d'un consulat. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur radioclassique.fr et vous écoutez le podcast de Christian Macarian. L'avenir de l'Iran maintenant, il reste incertain, tandis que Donald Trump semble étudier toutes les options, y compris le recours à un raid militaire éclair et massif. Le régime iranien redouble d'atrocités l'université, même s'il annonce avoir interrompu les pendaisons qu'il projetait, il se lance dans une répression sans précédent malgré tout.
Oui, et ça pose la question, inévitablement, de savoir qui soutient encore l'Iran. Parce que ce qui rend la situation actuelle possible, c'est évidemment ce qui a précédé, notamment la guerre des 12 jours l'an dernier, au mois de juin 2025. Ce qui a précédé, c'est-à-dire l'isolement de l'Iran et la liquidation, si je puis dire, de tous ses proxys. Le Hamas, le régime Assad, le Hezbollah et Nasrallah et en partie les Houthis du Yémen. Tous ces alliés-là de l'Iran ont été coupés de la centrale, si j'ose dire, qui est Téhéran. Alors, les deux grands parrains demeurent, la Russie et la Chine. Et que voit-on? Que la Russie est étonnamment silencieuse. Bien sûr, il y a un communiqué de protestation du Kremlin sur les menaces américaines, mais c'est vraiment le service minimum. Quant à Pékin, c'est le grand silence. Parce que Pékin dépend étrangement, fortement, du pétrole iranien.
Alors justement, quels sont les clients habituels de l'Iran en matière pétrolière?
Alors, la liste peut surprendre. Il y a les Émirats Arabes Unis qui sont un allié indéfectible des États-Unis. Donc ça leur crée quand même un problème aux Émirats que de voir éventuellement l'Iran frapper. Il y a l'Irak, il y a la Turquie qui est aussi un allié des États-Unis et un membre de l'OTAN. Il y a l'Inde et il y a des pays qui sont également du camp occidental comme la Corée du Sud, le Japon et même l'Indonésie. Tous ces pays sont des clients de l'Iran. Et Trump a annoncé proférer la menace de taxes douanières punitives de 25% appliquée à tout pays qui ferait du commerce avec l'Iran. Mais évidemment, le premier d'entre eux, de tous ces pays, c'est la Chine. Donc c'est encore une fois, pour Trump, une sorte de partie de bras de fer avec la Chine qui apparaît à travers la question de l'Iran. Et ça explique en grande partie pourquoi Trump ne veut pas aller non plus trop loin.
Alors justement, il prend son temps, il a annoncé avant-hier des choses, il a dit l'aide arrive, continue à protester, mais finalement il temporise. Il faut dire qu'il est très présent sur la scène internationale, ce qui est un paradoxe pour un président soi-disant isolationniste, mais le Venezuela, le Groenland et l'Iran, c'est peut-être beaucoup pour Donald Trump.
Oui, d'ailleurs, dans les sondages, les Américains lui reprochent de s'occuper beaucoup plus de l'extérieur que de l'intérieur. Mais quelque chose de très intéressant se passe dans l'atermoiement, si j'ose dire, de Donald Trump. C'est pas vraiment un atermoiement, mais le fait qu'il prenne son temps, il y a quand même l'apparition d'un dilemme. Il ne sait pas, Monsieur Trump, il semble hésiter entre frapper et réduire l'Iran à l'impuissance en détruisant ses capacités militaires qui sont encore intactes, ou bien alors faire évoluer le régime en l'étranglant à petit feu. Et tout ça, ça porte un nom, théorisé par les théoriciens du camp conservateur, passer du régime change, le changement de régime, au régime collapse, c'est-à-dire l'effondrement du régime. Alors là, c'est une stratégie d'encerclement, d'étouffement, encore une fois, à petite vitesse, mais qui obligerait le régime à muter de l'intérieur, ce qui apparaîtrait aux Américains plus solide que un coup frappé de l'extérieur.
Les Américains qui se souviennent de ce qui s'est passé en Irak, probablement.
Radio Classique, le journal imprévisible.
Avec Marc Bourreau, le vrai, l'original, l'exclusif, le Cézanne de la fausse monnaie porté à l'écran, on en parlait hier avec Samuel Blumenfeld. Cette semaine sort en salle l'affaire Bojarski, un film sur l'un des fabricants de faux billets les plus renommés du XXe siècle. Un de ces artisans, de ces génies de l'illusion que l'on nomme les faussaires.
L'affaire redeviendrait possible si on pouvait faire contrôler nos sterling par un spécialiste.
Vous en connaissez un?
Le meilleur. 30 ans de fausse monnaie, pas un accro. C'est comme si on s'associait avec la Banque d'Angleterre. Nos sterling, on pourra les montrer à Pinay.
Il y a toujours une part de légende chez les faussaires, celui dont on parle tout le temps mais qui reste tapis dans l'ombre, un peu comme le Mozart de la fausse monnaie, le Dab, Jean Gabin dans le CAF se rebiffe. Maximum d'impact, minimum de bruit.
Le faux Talbin, messieurs, est un travail qui se fait dans le feutré.
À quoi ressemblerait-il d'ailleurs le premier faussaire de l'histoire, ceux avec qui on ne rigole pas avec la fausse marchandise, au moins depuis l'an 315, David, et cette supposée donation de l'empereur Constantin qui confiait au pape la domination territoriale sur l'Occident président. Amen. Un document créé de toutes pièces, démasqué des siècles plus tard, mais qui allait bouleverser le Moyen-Âge. Le temps des reliques et des contrefaçons, comme ce Saint-Suaire de Turin, qui aurait enveloppé le Christ à la descente de sa croix. Le carbone 14 disait autre chose à la fin des années 80.
Le Suaire de Turin n'a pas plus de 700 ans. Qui l'a fabriqué? Quel moine, peut-être, a patiemment tissé ce linceul? L'archevêque de Turin, qui a annoncé la nouvelle, a déclaré « Les spécialistes sont sûrs à 95%. » Il reste donc 5% pour la légende.
Les faussaires, c'est une identité trouble, comme un certain Rudy Kurniawan, cet Indonésien qui a berné le tout Hollywood avec des vins ayant appartenu à Thomas Jefferson, des Romanée Conti aux étiquettes trafiquées quand d'autres crus n'avaient finalement qu'un goût de piquette.
Et voilà! Le gros Lafitte qui tâche.
Mais Hollywood relève la tête avec Frank Abagnale. 8 identités différentes, des chèques sans provision, des diplômes bidonnés pour devenir avocat, enseignant, docteur, pilote de ligne. Des décennies à jouer avec notre crédulité, mise à l'écran par Steven Spielberg dans Attrape-moi si tu peux.
Cette petite carte plastifiée que portent les pilotes, c'est quoi?
Eh bien, un pilote doit avoir en permanence 2 choses sur lui. Le badge de la compagnie pour laquelle il travaille, comme celui-ci, et sa licence de pilote qui l'autorise à voler. Et voilà à quoi ça ressemble. Pour en avoir un, il faut devenir un authentique pilote de la Pan American Airways.
Je pourrais en faire une photocopie pour mon article?
Ah, c'est pas la peine. Garde-la, elle est expirée depuis 3 ans.
Et voilà l'affaire. Et puis il y a les faux documents pour la bonne cause. Adolfo Kaminski, chimiste autodidacte, étudiant aux Beaux-Arts le jour, fabricant de faux papiers la nuit pendant la Seconde Guerre mondiale. Il fournit jusqu'à l'épuisement des faux à la résistance et sauve des milliers d'enfants juifs de la déportation.
Sur un carton comme celui-ci, j'ai collé la photo, j'ai rempli avec ma petite écriture de primaire, mis le coup de tampon. Sur les cartes d'alimentation des enfants juifs, il y avait un grand tampon rouge juif en diagonale. Il fallait l'enlever. C'était vraiment la course contre la montre. On savait très bien à quoi ils étaient destinés.
Et oui, le faussaire, cet illusionniste hors pair, un peu comme Jean-Louis Aubert, du grand art qui n'épargne évidemment pas le monde pictural.
Regarde bien, Beautrelet, la merveille des merveilles, l'œuvre suprême, la Joconde de Léonard de Vinci. Tu as devant toi la seule, la vraie,
la vraie.
Va au Louvre. Derrière la toile, tu trouveras ma signature.
Et si Arsène Lupin échange des originaux contre des faux pour garnir son refuge de l'aiguille creuse d'Étretat, la réalité aussi compte David un certain nombre de prestidigitateurs espiègles. Comme ce chapeau, ces lunettes noires et cette longue barbe qui cache un mystère. Fernand Le Gros, marchand de tableaux, qui inspire Hergé et Orson Welles. Le Gros faisait circuler des faux tableaux de maître à l'étranger, des Picasso, des Matisse, des Gauguin, un peu trop beaux pour être vrais.
J'ai vendu des tableaux au Japon, bien sûr. J'ai vendu à Monsieur Sato, Premier ministre, les musées nationaux japonais. Monsieur Malraux aurait vu mes tableaux au Japon et il lui déclarait à Monsieur Sato, Premier ministre, qu'il déplorait que de tels chefs-d'œuvre quittent la France.
Mais les faussaires, ce sont surtout des peintres incollables en histoire de l'art. Anne van Meegeren, virtuose néerlandais, ira jusqu'à peindre un Vermeer qui n'a jamais existé. Les disciples d'Emmaüs, on n'y a vu que du feu. Des Cézanne, des Degas, spécialité aussi de Guy Ribes entre les années 80 et 2005, avec une préférence pour Chagall.
J'ai appris à être Chagall, à penser exactement comme lui. Chagall, quand il rentrait dans son atelier, tous les matins, sa femme lui mettait un bouquet de fleurs. Et il s'inspirait de ce bouquet de fleurs. Ben, je faisais la même chose, moi. Ils acceptaient, le tableau rentrait dans le domaine de l'art. Personne n'ira douter de l'authenticité de l'œuvre. Un faux tableau avec un vrai certificat devient vrai. Un vrai tableau avec un faux certificat reste faux.
30% des tableaux dans les musées et les collections privées seraient des faux, David, selon les estimations. Les faussaires éprouvent-ils des remords? Question posée à une légende, l'allemand Wolfgang Beltracchi, avec sa femme a trompé son monde. 20 ans a écoulé de faux Dufy, de faux Braque et des Max Ernst plus vrais que nature.
Parfois, quand je peignais, j'avais vraiment l'impression que tous ces peintres illustres me regardaient derrière mon épaule. Max Ernst était un peu en colère. Mais la meilleure chose que l'on puisse ressentir, c'est de se sentir comme un artiste.
Au bout d'une allée de faux buis, on apercevait un faux puits, du fond duquel la vérité n'avait jamais dû remonter.
Marc Bourreau pour le journal imprévisible et inimitable.
Radio Classique, rediffusion de la matinale d'hier.
Bonjour David.
Bonjour David.
7h56 sur Radio Classique. Hier, vous nous parliez technologie avec la capitalisation boursière de Google. Aujourd'hui, vous nous faites découvrir une industrie qui n'a strictement rien à voir et un produit, et surtout un marché, c'est la sardine en boîte.
Ah oui, il faut parfois se jeter à l'eau. Et c'est la lecture d'une très bonne enquête dans les Échos de ce matin qui m'a inspiré. On y apprend plein de choses. Déjà, la première, c'est que notre appétit pour la sardine se porte bien, mais la seconde, c'est que l'économie de la sardine, elle, se porte pas si bien que ça. Et ces deux informations, je trouve, disent beaucoup de choses sur notre société et notre économie. Alors, sur le front de la consommation, le marché de la conserve de produits de la mer a reculé de 2 à 3% en moyenne chaque année depuis 2020. On avait fait des stocks, sans doute, pendant le Covid. Mais celui des sardines, lui, progresse. Plus 1% par an, plus 1% l'an dernier, pardon. Les Français en dévorent quand même 80 millions de boîtes chaque année. Ça fait un peu plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. 3 fois moins que le thon en conserve, mais quand même bien plus que le maquereau. Et les raisons pour lesquelles cet appétit pour la sardine en boîte se porte bien sont multiples. C'est déjà parce que c'est pas cher, 2 à 4 euros la boîte, c'est pratique, un morceau de pain, un peu de beurre salé, une boîte et hop, ça fait un repas.
En pique-nique, ensuite, c'est génial.
Bah oui.
Et même au petit-déjeuner.
Oui, alors le